Le ministre des Relations avec le Parlement a dressé le bilan des 11 assemblées provinciales avant le découpage territorial. Dans cet ouvrage intitulé Recueil national, les élus provinciaux Trifon, Kinkié et Moulumba affirment que ces assemblées provinciales ont adopté 163 édits au cours de la période allant de 2006 à 2015. Selon le ministre, la majorité des lois provinciales ont porté sur la mobilisation des ressources financières plutôt que sur les secteurs vitaux tels que la santé et l'éducation. Quelle analyse faire du bilan dressé par le ministre? Nous en parlons avec Maître Gabi Kitapindou, il est conseiller en charge de la collaboration institutionnelle et du contrôle parlementaire au ministère des Relations avec le Parlement. Bonsoir Maître Gabi Kitapindou.
Bonsoir Monsieur Guy.
Hubert Kishabongo, il est président de l'Assemblée provinciale du Maniema. Bonsoir honorable Hubert Kishabongo. Bonsoir honorable Hubert Kishabongo.
Bonsoir monsieur Gabi.
Bonsoir honorable. Et professeur Bouendoua Ilouga Essi, il est directeur du Centre de recherche et d'études sur l'Afrique orientale et des Grands Lacs. Il est aussi recteur de l'Université Julius Nyerere de Bukavu, Sud Kivu. Bonsoir professeur Bouendoua Ilouga Essi.
Bonsoir cher ami, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Gabi.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
163, c'est le nombre de tous les édits votés par les assemblées, les anciennes assemblées provinciales de la RDC en 9 ans, soit de 2006 à 2015. C'est la ressort du recueil national des édits provinciaux dont le vernissage a eu lieu vendredi dernier à Kinshasa. Ce document de 1040 pages est une œuvre du ministère en charge des relations avec le Parlement. Selon le ministre Trifon Kiké Moulumba, une production de 163 lois provinciales en 9 ans est loin d'être une performance. Innocent Olenga pour les détails.
À analyser les rapports qui accompagnent ces recueils, 163 lois en 9 ans donnent une moyenne de 20 lois par an, soit 2 lois en moyenne par an et par province. Si l'ancien Kasaï oriental est en tête avec 35 édits, l'ancien Bandundu en a produit 6 seulement en 9 ans. L'ancien Katanga et les Bakongo sont bien cotés en termes de qualité législative de leurs lois qui sont conformes à la Constitution. Tandis que pour l'ancien Équateur, 9 de ces 13 édits sont non conformes à la Constitution, d'où la demande du gouvernement à la Cour constitutionnelle de déclarer ces édits illégaux. La majorité de ces lois provinciales contenues dans ces recueils portent sur la mobilisation des ressources financières. Peu s'intéressent au domaine de l'ordre public, au secteur de l'aménagement du territoire, des transports et de l'environnement. Des secteurs vitaux tels la santé, l'éducation, les affaires foncières, la salubrité publique ont été laissés en friche. Mais tout de même, Tifon Kinké Moulumba, ministre en charge avec les parlements, a la conviction que ce recueil va, dans le cadre des 26 provinces, servir à corriger les imperfections, créer l'humiliation dans l'initiative législative et améliorer la qualité de celle-ci.
Merci Nossa Olenga, Maître Gabi Kitapindou. Je rappelle que vous êtes conseiller en charge de la collaboration institutionnelle du contrôle parlementaire au ministère des Relations avec le Parlement. Et votre ministère vient de publier ses recueils sur la production des assemblées provinciales. Et qu'est-ce qui a motivé votre démarche?
Oui, Monsieur Guy, notre démarche a une motivation tout à fait républicaine. C'est-à-dire, premièrement, nous avons fait le constat que les édits provinciaux n'étaient pas assez vulgarisés par les pouvoirs provinciaux. C'est-à-dire que le peuple profond des provinces n'était pas en contact avec les édits, alors que les édits les concernaient au plus haut point. Ces lois provinciales étaient appelées à régir des secteurs entiers de la vie nationale, parce que le pouvoir central a doté la province des prérogatives qui font en sorte que les autorités provinciales peuvent légiférer, soit dans des matières exclusives à la province, soit dans des matières concurrentes au cas où le pouvoir central n'a pas légiféré dessus. Premièrement, outil de vulgarisation. Deuxièmement, les édits tels que nous les avons rassemblés ont... Notre recueil a une valeur didactique, c'est-à-dire Nous devons savoir que nos assemblées provinciales ont fait un travail de pionniers. Nous savons dans l'histoire que ce sont les pionniers qui taillent le chemin. Ce sont les pionniers qui cassent la pierre, comme on l'a dit si bien dans l'histoire du Congo, les Boulamatari. Ceux qui prennent le risque de se blesser, le risque de se fatiguer, le risque même de mourir pour un travail qui n'a pas encore été fait. Et ce travail est un travail de pionnier. Nous devons l'apprécier à leur juste valeur.
Voilà, vous dites que le ministère a constaté que les édits provinciaux ne sont pas assez vulgarisés. Il y a des experts en décentralisation qui, tout en saluant, n'est-ce pas, cet ouvrage qui a été réalisé par le ministère, estiment que la démarche du ministère n'est pas légale. Eux estiment que le ministère devait plutôt insister sur le fait que les édits provinciaux devaient être publiés dans les différents bulletins officiels des provinces. Au lieu de constater seulement, il fallait, n'est-ce pas, pousser, n'est-ce pas, les assemblées provinciales à publier les édits dans les bulletins officiels de leur province.
Monsieur Guy, notre démarche n'est pas en contradiction avec la démarche du ministère de la décentralisation. Remontons au début, comme nous disons. Notre démarche s'inscrit dans la droite ligne de l'ordonnance présidentielle numéro 15/015 du 21 mars 2015 qui nous attribue la prérogative de nous assurer de la conformité des édits pris en province. Donc, notre travail, quand nous cherchons à nous assurer de la conformité, nous devons d'abord identifier les édits en question. Numéro de l'édit, date de l'édit, portant telle matière, c'est là même l'objet de notre travail au début.
Et donc, la démarche est légale.
Notre démarche est tout à fait légale. C'est le président de la République qui nous a accordé cette prérogative.
Ok, vous affirmez que seulement 163 édits ont été adoptés en 9 ans par les 11 assemblées provinciales de toute la RDC. Est-ce que vous avez tenté d'échanger avec les concernés, c'est-à-dire les députés provinciaux, pour savoir quelles sont les raisons qui sont à la base de cette faible production?
Au départ, nous avions... Ce nombre de 163 n'est pas un nombre pris au hasard. Nous sommes descendus sur terre. Son Excellence, Monsieur le ministre Tryphon Kinkemoulumba, a initié des missions dans tous les 11 chefs-lieux de province. Nous avons été en Bandaka, nous avons été à Lubumbashi, Kisangani, Mujimai, Kananga, et ainsi de suite.
Voilà, et nous les raisons qui expliquent cette faible production?
Non, je l'ai dit tantôt, c'est un travail de pionnier. Il y a eu plusieurs contraintes qui ont milité à la faiblesse de ce nombre-là. Il y a des assemblées provinciales qui ont fonctionné avec des maigres moyens, des moyens limités. Il y a des assemblées provinciales qui ont fonctionné tant soit peu avec des infrastructures difficiles à réunir. Je le répète encore, c'est le leitmotiv de mon intervention. Ce travail est un travail de pionnier. Donc, il y a des moments où les assemblées provinciales étaient dans le système D, comme on dit à Kinshasa dans l'article 15. Toutes ces pesanteurs-là, sûrement ont fait en sorte que le nombre des édits collectés n'a pas été fameux par rapport à la période de l'exercice parlementaire.
Il y a des experts qui dénoncent les interférences, n'est-ce pas, du gouvernement central dans l'action des assemblées provinciales, et notamment en bloquant certaines initiatives de ces organes délibérants. N'est-ce pas une des explications à ces phénomènes?
Je ne peux pas l'affirmer d'emblée parce que je n'ai pas de preuves, mais de manière brute, la Constitution a réglé le problème entre les matières exclusives du pouvoir central, les matières concurrentes et les matières exclusives du pouvoir provincial. Dans la pratique, nous pouvons comprendre ce constat. Pourquoi? Parce qu'il est difficile à l'État qui était auparavant fortement centralisé, de pouvoir laisser du lest au profit du pouvoir provincial. C'est difficile. Pourquoi? Parce que Kinshasa était habitué à tout régenter.
Et donc, vous reconnaissez à certains points de vue qu'il y a eu interférence
du gouvernement
central, n'est-ce pas, dans l'action de l'Assemblée provinciale.
De manière brute, je n'ai pas des cas précis
Merci.
Comme preuve. Merci. Mais nous pouvons nous dire que comme nous sommes à une période de tâtonnement, il peut se faire qu'au niveau de la compréhension, les autorités centrales et les autorités provinciales puissent quelque peu se brouiller.
Merci, merci. Hubert Kisha Bongo, président de l'Assemblée provinciale du Maniema. Et comment vous réagissez à ces bilans que le ministre des Relations avec le Parlement a fait de votre travail?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Premièrement, je tenais à remercier le ministre pour l'initiative, parce que c'est la première. Et pour nous, comme pour moi personnellement, comme président de l'Assemblée, comme responsable de l'institution, je crois que le ministre, comme l'a venait de dire monsieur le conseiller et le conseiller du ministre, les assemblées provinciales sont jeunes. C'est les premières institutions, je crois. Donc je voulais dire que les assemblées provinciales, ce sont des pionniers, comme l'a souligné monsieur le conseiller, et a insisté aussi qu'on a connu beaucoup de problèmes. Les problèmes qu'on a connus au début de la législature, parce que, comme il disait, comme je venais de le dire, nous sommes des pionniers. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas trouvé une administration permanente ou même les archives. On n'en avait pas. On était en train de tâtonner au début. Nous profitons de l'occasion aussi pour remercier nos partenaires, entre autres l'USAID, DAI, et le PNUD pour leur contribution, parce qu'ils nous ont donné des formations, ils sont passés dans les institutions des différentes provinces pour former les députés et les apprendre comment vraiment respecter la procédure d'élaboration des édits.
Honorable Hubert Kisha-Bongo.
Oui, allô.
Oui, au Maniema, combien d'édits ont été produits en 9 ans? La moisson était-elle abondante?
Ben oui, c'est moi. Bon, je crois que... c'est 8, ils ont retenu 8. Ils ont retenu 8 dans le document publié. Il y a 8 édits retenus.
8 édits en 9 ans, vous pensez que c'est suffisant?
Ben, nous pouvons dire que vraiment, on ne peut pas dire que c'est vraiment suffisant. Suite aux différents problèmes qu'on a connus, il y a des édits aussi qui n'ont pas respecté la procédure selon le ministère chargé avec le Parlement, quoi, relation avec le Parlement.
Alors, est-ce que vous avez l'habitude de publier ces différents édits dans les bulletins officiels de votre province? Vous avez suivi les conseillers du ministre qui affirment qu'ils ont constaté que les différents édits ne sont pas assez vulgarisés.
Mais la vulgarisation, la procédure nous permet d'abord, dès que les gouverneurs promulguent, nous envoyons au journal officiel pour la publication. Et tous nos édits, même les édits qu'ils ont jugés ne pas être conformes à la Constitution, ont été publiés au journal officiel. Donc nous avons respecté la procédure. Nous avons envoyé une copie au journal officiel et une copie à la Cour suprême avant la naissance de la Cour constitutionnelle. Donc nous avons respecté la procédure. Et suite peut-être à des différences, et à leur suite à leur étude, à leur analyse, ils ont trouvé qu'il fallait supprimer certains édits.
Oui, vous parlez du journal officiel, mais au niveau des provinces, il y a des bulletins officiels. Pourquoi vous ne voulez pas publier ces édits dans les bulletins officiels des provinces?
Oui, mais dès que le gouverneur... les édits étaient réellement publiés dans le journal officiel, plutôt dans les revues. Parce que dès que le gouverneur promulgue directement, c'est automatique. C'est au niveau du gouvernement provincial qu'il y a les services appropriés pour ça.
Oui, monsieur le président de l'Assemblée provinciale du Maniema, vous avez parlé des 8 édits qui ont été, n'est-ce pas, adoptés par votre institution en 9 ans. Quelles sont les réformes qui ont été opérées grâce à ces 8 édits?
Oui, parmi les 8 édits, nous avons plus, comme Bapet, c'est ce qui je tenais à insister, nous avons parlé d'abord, il y avait l'édit portant l'organisation des activités agricoles dans la province, parce que nous avons constaté qu'il y avait diminution de la production. Auparavant, la province du Maniema était considérée comme les greniers de la République. Mais à partir des différents... Nous avons connu différents problèmes entre autres de l'enclavement de la province, et il y a des paysans qui cultivaient, ils ne savaient pas comment évacuer leur production, et c'était un problème. Après, donc, après la récolte, c'était un sérieux problème, on ne savait pas où est-ce qu'on pouvait acheminer la production agricole. Et tout ça, ça avait découragé la population. C'est ainsi que nous avons exigé à chaque population, au moins à chacun de nous, d'avoir d'abord un champ et sensibiliser toute la population d'Imaniema que nous puissions reprendre notre place et chaque citoyen, chaque population puisse aussi s'occuper, même si tu as un travail, que tu puisses aussi t'occuper de l'agriculture. C'est ça en général.
Alors, si vous avez fait les suivis, n'est-ce pas, d'applicabilité de ces édits, prenons les cas de cet édit relatif aux activités agricoles, peut-on dire qu'il y a des résultats palpables aujourd'hui sur le terrain?
Oui, petit à petit, il y a amélioration de la situation. Il y a amélioration et nous constatons actuellement d'abord qu'il y a diminution du prix à Kindu. Auparavant, les riz Kindu, on était en difficulté même d'acheter les riz à Kindu seulement au chef lieu de la province parce qu'il n'y avait pas, la route était fermée et puis la population s'était découragée de l'agriculture. À partir de ça, aujourd'hui, la production a augmenté et nous constatons que la population a compris que c'était important que nous puissions tous nous investir dans l'agriculture.
Monsieur Hubert Kishabongo, selon le ministre Kinkei Mulumba, la majorité des lois provinciales ont porté sur la mobilisation des ressources financières plutôt que sur les secteurs vitaux tels que la santé, l'éducation. Peut-on, à partir de là, dire que pour les élus provinciaux que vous êtes, la santé, l'éducation comme l'environnement ne constituent pas une priorité?
Ben, ça constitue une priorité. Ça constitue une priorité. Il est vrai, il y a certains édits, mais la plupart des édits qu'ils ont supprimés, ce sont ces édits qui cadraient à d'autres domaines. C'est tellement qu'il y avait un problème aussi de manque d'information et d'expérience, et parce qu'il y a des domaines réservés au gouvernement central. Mais en travaillant ces édits, peut-être on n'a pas tenu compte de ça, suite à manque d'information et de formation, et manque d'information, excusez-moi, et que d'expérience. Et que, au niveau du ministère, ils ont trouvé que la procédure n'était pas respectée. Et tout ça, il y a des édits à améliorer, comme vous avez souligné. Et vous trouverez qu'il y a d'autres édits qui ne sont pas seulement limités au niveau de mobilisation des ressources financières. Nous sommes aussi occupés d'autres secteurs. Mais seulement, on n'a pas respecté le respect des partages, entre autres, des domaines réservés au gouvernement central et au gouvernement provincial.
Oui, comment vous avez géré l'interférence du pouvoir central dans les travaux de l'Assemblée provinciale du Maniema?
Ben oui, écoute, c'est la décentralisation, mais il y a harmonie. Chaque fois nous avons des réunions et que nous gérons sans problème.
Merci.
Nous gérons sans problème et nous suivons les orientations sans problème.
Merci, professeur Bouendoua Elouga Essi, directeur du Centre de recherche et d'études sur l'Afrique orientale et des Grands Lacs. Vous êtes aussi recteur de l'Université Julius Nyerere de Bukavu Sud-Kivu. En 9 ans, toutes les assemblées provinciales de la RDC n'ont produit que 163 édits. Comment vous analysez ces bilans? Allô, professeur Bouendoua? Voilà, je pense qu'on a perdu. On va tenter de les rappeler. Maître Gabi Kitapindou, il y a une question qui vous est adressée. Elle vient de Isiro.
Je suis venu à Isiro, province de Ouélé. Je salue la publication du ministre Ifoye d'avoir dressé le bilan sur les édits provinciaux. 163 édits pour 11 provinces pendant 9 ans, cela prouve quand même la faiblesse du travail de nos députés provinciaux. Mais le ministre ne doit pas condamner les députés provinciaux d'avoir porté leurs attentions si la mobilisation des ressources financières dans les provinces qui trouvent des difficultés aujourd'hui pour son décollage et développement par manque de ressources financières et le manque de volonté politique pour retrocéder les 40% aux provinces.
Monsieur Gabi?
Oui. Merci pour la question. Je voudrais que l'on soit clair et qu'on fasse la part des choses. Son Excellence, Monsieur le Ministre, n'a pas condamné le travail abattu par les assemblées provinciales. Nous avons juste posé un constat par rapport aux matières traitées. Les réalités...
Les constats selon lesquels le rendement est faible.
Mais ce n'est pas une condamnation. Merci.
C'est un constat.
Un constat. Merci. Les réalités vécues par les provinces, nous, en tant que ministère du gouvernement central, nous ne les avons pas vécues. Il est tout à fait normal que les provinces puissent s'organiser pour voir comment générer des recettes. Parce que sans recettes, l'appareil de l'État ne peut pas fonctionner. Là, nous sommes d'accord. Mais ce que nous constatons à côté, c'est que parmi les édits qui ont été collectés, les matières à caractère social sont orphelines. Les matières à caractère social n'ont pas assez été prises en considération, surtout quand on parle du fait que les matières comme l'éducation, la santé, la salubrité publique, l'ordre public, sont des matières qui sont du pouvoir exclusif des provinces. Donc les provinces, soit elles ont plus focalisé leur attention à écouter l'argent, mais elles ont oublié que la vie de leurs citoyens, de leurs habitants, dépend également d'eux qui ne devaient pas tout attendre de Kinshasa. Résultat, nous savons bien que la prise en charge sociale de ces populations n'était pas fameuse pendant ces années. Nous ne les condamnons pas, mais nous pensons qu'ils auront dû faire mieux, faire un certain équilibre entre l'aspect financier, l'aspect fiscal et l'aspect prise en charge sociale.
Maître, vous avez suivi notre auditeur d'Issiro.
Oui.
Est-ce que quelque part, ce n'est pas aussi Kinshasa, les comportements qu'affiche le pouvoir central vis-à-vis de ces assemblées provinciales, vis-à-vis de ces institutions provinciales, qui pousse ces institutions, n'est-ce pas, à mettre un accent sur la mobilisation des recettes, parce que les institutions, en fait, les provinces produisent, envoient à Kinshasa, mais Kinshasa pose des problèmes pour rétrocéder à ces provinces, donc elles sont obligées de se débattre, et donc elles passent tout le temps à chercher comment mobiliser les ressources, parce que Kinshasa ne les aide pas, n'est-ce pas, à financer leurs projets de développement.
Je sais que depuis l'adoption de notre constitution, depuis 2006, jusqu'à même à l'effectivité du découpage territorial, la question de la caisse de péréquation a toujours eu une certaine sensibilité. J'en suis conscient. Je sais aussi que il est difficile aux provinces de pouvoir se développer, de pouvoir travailler sans ressources financières. Ce que l'on aurait dû faire, c'est que quand nous attendons que la caisse de péréquation soit effective, parce que n'oublions pas que l'un des objectifs de la caisse de péréquation, c'est de créer un certain équilibre des niveaux de développement entre les provinces. Quand nous attendons que Kinshasa puisse résoudre le problème de la caisse de péréquation, nous aurions aussi dû commencer, ne fût-ce que par des projets de développement qui pourraient occuper la vie publique sociale. Parce que, n'eût été les interventions des bailleurs des fonds internationaux, le secteur social en province serait vraiment dans le coma.
Merci, professeur Bouendoua Elouga. Est-ce que vous êtes là, professeur?
Oui, je suis bien là. Excusez-moi, c'est les erreurs de technique ainsi, un peu, mais je suis bien là, je me suis très bien.
Oui, comment vous analysez ces bilans faits par les ministres des Relations avec le Parlement? En 9 ans, toutes les assemblées provinciales de la RDC n'ont produit que 163 édits.
Oui, l'analyse que je pourrais faire, c'est que tout le monde vient de le dire là, il n'y a ni qualité, ni quantité, ni même quantité. Et dans un pays qu'on sait très bien mal gouverné, mal dirigé, mal administré, naturellement l'idée de pouvoir voir se développer une sorte de rapprochement entre l'administration et l'administré, en cette triple articulation qu'on appelle la décentralisation, la déconcentration ou bien la décentration, comme disait mon maître Guy Brébant, je pense pas très bien que vraiment le compte n'y est pas. Mais comme j'ai bien suivi d'ailleurs mes amis Hubert et Gabi, que je n'ai pas pu saluer, qu'ils m'en excusent, j'aimerais bien quand même bien souligner ici que la vraie question qui s'est posée, qui se pose dans notre pays, c'est qu'on a mal pensé tout le système de notre pays. C'est-à-dire que tout simplement, quand on peut se dire que la géographie d'un pays lui dicte sa politique, et donc sa politique économique, et puis sa politique tout simplement, on remarque très bien qu'on a trop décentralisé le pays et qu'on ne lâche pas du lest pour les provinces. Et c'est ainsi que nous avons plutôt des gouverneurs qui, en province, sont beaucoup plutôt, font des provinces leur tremplin pour un pouvoir certain ou incertain à Kinshasa. Nous avons des gouverneurs qui sont beaucoup plutôt des missi domini qui, plutôt que des gens qui servent leur province. Nous avons des gouverneurs de province à la limite qui ne voient pas comment développer leurs entités, comment penser local pour agir global, ce qu'on appelle la globalisation. Et c'est ainsi que nous trouvons vraiment dans une difficulté parce que personne ne s'occupe de la chose publique au niveau local, au niveau purement basique.
Oui, professeur, vous dites que nous avons mal pensé tous les systèmes de notre pays. Vous voulez dire que c'est faible les résultats et les fruits d'une décentralisation qui a été mal appliquée dans ce sens que la Constitution accorde beaucoup de compétences aux institutions provinciales, mais en pratique, le pouvoir central n'a jamais reconnu ces compétences.
C'est tout le débat entre les centralisateurs et les fédéralistes dans ce pays. Et toutes ces questions qui sont d'ordre public, d'ordre politique, n'ont jamais pu être débattues. Et on va se mettre à ergoter sur beaucoup de sujets, mais l'essentiel de penser et de repenser notre pays n'a jamais été remis sur le pied. Et c'est ainsi que la plupart de ceux qui nous gouvernent en province se comportent comme des proconsuls. C'est-à-dire, comme le proconsul, comme Pilate le faisait face à Jésus. C'est-à-dire qu'à la limite, ils savent bien qu'ils ne doivent leur pouvoir que d'un pouvoir central qui, à la limite, aussi les nomme, les parachute, les désigne plutôt que les faire élire. Et du coup, en fait, on a des autorités provinciales qui n'en ont strictement rien à foutre, excusez l'expression, avec la réalité, la quotidienneté de la vie de leurs compatriotes. Et c'est ainsi que moi je pense que la faible production traduit tout simplement une sorte, comment dirais-je, de trahison des clercs, comme le disait Julien Bender.
Selon ce recueil produit par le ministère des Relations avec le Parlement, pour l'ancienne province de l'Équateur, 9 de ces 13 édits ont été jugés non conformes à la Constitution. Professeur, à votre avis, y aurait-il un problème de maîtrise des textes par les députés provinciaux?
Il y a un problème absolu de maîtrise des textes par tout le monde en République démocratique du Congo. Moi, je suis toujours en train de me battre sur la question de la vulgarisation dans les langues ethnotribales, parce que même ceux qui produisent des textes, j'enseigne le droit, je peux vous assurer que parfois, les concepts, on ne les comprend pas, on ne les fait pas comprendre, alors je les trouve mal. Même, nos élus et puis nos dirigés arriver à comprendre la concaténation nécessaire entre les textes et puis leur réalité. Mais quoi qu'il en soit, quand on voit qu'on a eu 163 en 9 ans, moi j'ai fait mon petit calcul, c'est une moyenne de plutôt 18 édits par an, une moyenne de 1 édit et demi par province et par an, cela n'est pas vraiment du tout fameux, c'est déplorable, c'est inacceptable. Mais quoi qu'il en soit, je pense que tout est à refonder, tout est à repenser, tout est à refaire et assurément on ne pourra pas garder un État si centralisé où à la limite Kinshasa attrape tout et qu'en province les gens ne font que se débrouiller au quotidien sans savoir qui les gouverne, qui les administre et qui les dirige.
Professeur, à partir de ce travail fait par le ministère, peut-on comprendre pourquoi les provinces de la RDC ont du mal à décoller, ont du mal à prospérer? Allô, professeur Bouendoua Elouga, ici. Voilà, apparemment, nous l'avons perdu. Honorable Hubert Kishabonko, il y a une question qui vous est adressée, elle vient de Wamaza.
Joseph Mwamba Mukongo, depuis Wamaza, dans le Maniema. Si vous faites bien les calculs, vous trouvez que chacune des assemblées provinciales a produit au plus 15 lois en 9 ans, soit moins de 2 lois par an. en comparant ce petit nombre de lois au grand nombre de problèmes que traverse le peuple congolais, vous trouvez que les députés provinciaux ne sont pas au courant des difficultés que traversent leurs bases respectives. Ou peut-être sont-ils incapables de traiter sur le problème réel de la communauté. Ils ne sont là que pour remplir leurs poches, alors que les agents de santé et de l'éducation croupissent dans la misère sur les épaules du petit peuple.
Oui, honorable Hubert Kiabongo.
Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je tenais vraiment à faire voir à mon frère que le travail de l'Assemblée provinciale n'est pas seulement de légiférer. Nous avons aussi le travail, notre rôle, c'est de légiférer et de contrôler. Nous avons effectué plusieurs contrôles. Il y a des recommandations dans les secteurs, par exemple, de santé et de l'éducation. Nous avons beaucoup de recommandations où nous sommes adressés à l'exécutif et l'exécutif a transmis le problème au gouvernement central. Nous devons aussi savoir que le problème de l'éducation et du secteur de la santé sont des problèmes pas seulement c'est un problème plus au niveau du gouvernement central. Parce qu'au niveau provincial, nous avons des agents qui ne sont pas payés, entre autres les enseignants et les personnels de santé. Et ils croient que c'est au niveau des provinces où on bloque. C'est un problème au niveau central parce que je crois qu'au niveau de la province, nous avons reçu plusieurs délégations en provenance du gouvernement central pour vérifier et essayer d'harmoniser. Donc c'est le dossier qui est en cours et ça se trouve au niveau du gouvernement central. C'est ce que je peux dire à mon frère. Donc nous sommes au courant parce que nous vivons ce problème. Parce que c'est là où nous habitons, nous sommes avec vous. Mais ce n'est pas chaque problème que vous devez faire, je l'ai dit. Ça va perdre même le sens. Il y a des recommandations et il y a aussi que nous transmettons au gouvernement central et nous transmettons au gouvernement provincial. Et tout ça peut-être, les détails, ça ne sert à rien, mais je tenais qu'il sache ça. Ce n'est pas parce qu'on dit, on a fait oui et dit qu'on n'a pas travaillé. On a effectué beaucoup de contrôles, on a plusieurs recommandations. Si vous avez le nombre de recommandations, je crois même, dépasse 500 ou 600 chaque année et nous sommes en collaboration avec l'exécutif pour essayer de résoudre le problème de la population. Nous sommes en collaboration avec l'exécutif pour transmettre tous les problèmes de la province au gouvernement central afin de chercher des solutions efficaces. Entre autres, si mon frère parle du secteur de l'éducation et de la santé, c'est parce qu'il y a des personnels qui ne sont pas payés et il y a peut-être différents problèmes de centres de santé qui sont aussi résolus et où les solutions sont données par le gouvernement central d'une façon ou d'une autre.
Oui, honorable, vous avez vous-même reconnu que les institutions provinciales, c'est des jeunes institutions. Et il a été recommandé que les députés provinciaux puissent se faire entourer, n'est-ce pas, des conseillers, des techniciens. Mais bon, les experts disent que vous n'avez pas suivi ces recommandations. Au lieu de vous faire, n'est-ce pas, conseiller par des techniciens, vous vous êtes fait entourer plutôt des politiques, ce qui fait que les députés provinciaux ont du mal, n'est-ce pas, à cerner certains textes, n'est-ce pas, sur base desquels vous devez travailler.
Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je ne pense pas. Si c'était ça, on n'allait même pas être en mesure de présenter un seul édit valable. Et puis, deuxièmement, on n'allait pas même être en mesure d'effectuer un contrôle parlementaire ou même envoyer des recommandations, que ce soit au niveau du gouvernement provincial ou du gouvernement central. Il est vrai que nous sommes, vous avez même le conseiller à souligner au début, nous sommes butés à un problème. Donc, l'Assemblée, moi je peux vous amuser, comme le premier jour j'étais arrivé comme président de l'Assemblée, je n'avais pas d'archives, je ne savais même pas quoi faire. Je devais me référer aux experts qui devaient me dire ce que je devais faire et m'adapter petit à petit en apprenant aussi. Chaque jour, on apprenait parce que nous étions les premiers à commencer le travail au niveau des provinces. C'est normal, dans toutes les provinces, nous avons connu presque le même problème. C'est dans ce sens-là que je peux vous rassurer que réellement nous sommes bien entourés. C'est pourquoi vous verrez, même on a réalisé le 163 édits. Et on a, ce n'était pas seulement, c'était au-delà des 163. Quels sont les 163 que le ministère a jugé constitutionnel et a demandé à la Cour constitutionnelle qui a habilité à déclarer inconstitutionnel les autres qu'il a trouvé inconstitutionnel. Donc à notre niveau, messieurs les journalistes, nous vous rassurons que nous sommes bien entourés. C'est pourquoi même nous avons un bilan et un positif, comme je peux le dire, au niveau des provinces.
On
a abattu et avec le petit problème qui ne manque pas et au début, que nous avons connu au début, quoi, des manques d'expérience, ça. Moi, je partage le même point de vue que vous.
Oui, professeur Bouendoua Elouga, ici, je vous posais la question de savoir si, à partir du travail fait par le ministère, si on ne peut pas comprendre, n'est-ce pas, pourquoi les provinces de la RDC ont du mal à décoller.
Le travail est salué, parce qu'au moins il montre le chemin par lequel on peut passer, qu'est-ce qu'on peut faire et comment ne pas mal faire. Mais les provinces de la RDC ont un problème, c'est qu'elles regardent trop Kinshasa. Et à la limite d'arriver en province, le gouverneur lui-même se mue en monarque local. Et du coup, en fait, on oublie même les entités décentralisées. Moi, je pense qu'il faudrait une décentration et non même pas une décentralisation, parce que la décentralisation, ça va nous amener loin. Il faut vraiment repenser à partir des communautés basiques, des communautés locales construites autour des identités vérifiables, essayer de comprendre comment les gens peuvent activement participer à la confection des politiques qui les concernent. Moi, j'habite le Kivu, pour le moment, je suis au Nord Kivu, pour ainsi dire, mais je peux vous assurer que cette partie de la République n'arrive même pas à tirer profit des expériences qu'on peut trouver à côté, au Rwanda par exemple, en Tanzanie, au Kenya, où les questions de décentralisation, les questions de rapprocher l'administration des administrés est une question vraiment qu'on tient bien compte, qu'on examine avec beaucoup d'intérêt. Alors moi je pense que la vraie question de la RDC, c'est ici quand même tout simplement à ne pas penser qu'elle peut produire du nouveau tous les jours, alors que tout simplement, parfois, il s'agit que de copier et coller, et puis tenir compte des spécificités, des particularités et des singularités locales.
Professeur Bouendoua, il y a une question qui vous est adressée, elle vient de Bukavu, au sud Kivu.
Likiza Akulimouche Variste à Bukavu, au sud Kivu. J'aimerais que 9 ans après, le bilan puisse plutôt porter sur le rendement enregistré que sur le nombre d'édits produits par les assemblées provinciales, dont la réalité du terrain prouve que même la mobilisation des recettes qui a été priorisée poserait encore plus de problèmes dans son exécution, car, quoique ambitieuses, ces lois n'ont pas réussi à résoudre le problème des détournements des deniers publics et la corruption comme si les lois étaient faites pour une simple formalité. Ce qui déduirait que le vote des lois en RDC ne tient pas compte ni de l'originalité, ni de la validité, l'essentiel pour nos dirigeants étant d'avoir des lois pour des lois.
Oui, professeur Bouendoua. Voilà, apparemment, nous avons une fois de plus perdu. Maître Gabi Kitapindou, dans ce recueil qui a été produit par le ministère des Relations avec le Parlement, est-ce que vous avez formulé des recommandations à l'endroit des différentes assemblées provinciales pour essayer, en fait, pour les aider, n'est-ce pas, à devenir plus performantes?
Si vous le permettez, je vais faire une petite mise au point par rapport aux propos de l'honorable président de l'Assemblée provinciale du Maniema, qui a affirmé que les 163 édits ont été soit acceptés.
Exactement. Voilà. Conformes à la Constitution.
Les 163 édits sont ceux qui ont été collectés au niveau des provinces. C'est-à-dire, quand nous sommes allés en mission, nous sommes entrés en contact avec l'Assemblée provinciale. Ils nous ont présenté des textes de loi qu'ils ont appelés édits. Je vais vous même faire vous raconter une petite anecdote. Il y a même eu des textes qui s'appelaient arrêtés édits. Automatiquement, nous devions les déclasser. Ils nous ont présenté au total pour toute la RDC 163 lois provinciales. Et dans les 163 lois provinciales, nous avons fait un triage par rapport à la Constitution. Vous lirez à partir de l'article 201 et suivant, quels sont les édits qui sont conformes à la Constitution et aux lois nationales. 163 édits conformes à la Constitution et 30 édits non conformes. Donc, nous ne sommes pas encore à l'étape de la Cour constitutionnelle. Pour revenir...
Il y a une recommandation pour permettre à ces assemblées de devenir performantes.
Au sens du droit parlementaire, les recommandations, comme l'honorable président vient de dire, ce sont des suggestions à effet contraignant que les législatifs adressent à l'exécutif pour améliorer sa gestion de la chose publique. De manière simple, c'est cela. Au niveau de notre étude, nous avions demandé aux autorités provinciales de plus s'imprégner des textes constitutionnels et législatifs. Je vous donne un exemple. Il y a des édits qui légiféraient dans le domaine du règlement. Le domaine du règlement, c'est-à-dire un domaine réservé à l'autorité exécutive, au gouverneur. Donc, dans cette matière-là, ce n'est pas un édit qui doit être pris, mais un arrêté. Mais, nous voyons qu'un édit a été pris. Je vous donne un exemple. Si nous voulons créer une brigade de recette, ce n'est pas à l'Assemblée provinciale, mais c'est au gouverneur de prendre un arrêté. Mais, certaines provinces ont eu à le faire.
Donc, il faut insister sur la formation
des députés provinciaux. Il faut insister sur la formation technique. Parce que, dans notre étude, nous avons relevé trois principaux problèmes qui ont fait en sorte que la position législative soit assez anodine. Il y a le problème de profil du député. Nous savons en province quel est le profil des députés que nous élisons. Je ne vais pas aller en profondeur, sinon je risque de vexer des susceptibilités.
À part le profil,
il y a, à part le profil, il y a le problème d'expérience. Nous avons parlé de la jeunesse, d'une expérience qui n'a pas de devancière.
À part l'expérience.
Et troisièmement, le problème de la gestion rationnelle. Les petits francs congolais, les milliers de francs congolais ou les milliers de dollars que nous récoltons pour le fonctionnement des institutions. Qu'est-ce que nous en faisons? Alors, qui nous audite? À qui nous rendons compte, justement, pour que nous puissions nous plaindre que nous n'avons rien, Est-ce que réellement nous n'avons rien?
Et votre conclusion, est-ce que vous allez aussi recommander au gouvernement central de pouvoir accélérer les transferts des compétences aux différentes provinces?
Mais le transfert de compétences est constitutionnel. Le transfert de compétences est légal par la loi de la libre administration des provinces. De ce côté-là, nous ne pouvons en aucun cas être un frein. Nous sommes ministère du gouvernement. Nous sommes d'ailleurs favorables à cela parce que cela fera en sorte que les provinces puissent mieux fonctionner.
Merci. Honorable Hubert Kishabongo, votre conclusion.
Oui, pour moi, je crois que ce qui est plus essentiel, nous devons en général féliciter le travail abattu par les assemblées provinciales. Comme venait de souligner le conseiller du ministre, et qu'au début, nous étions en train de faire comme un jeu d'essai erreur, parce qu'on n'avait pas un soubassement solide. Et c'est ainsi qu'on trouve certains édits inconstitutionnels, c'est-à-dire au commencement, avant que nous puissions avoir la formation de nos partenaires qui nous ont soutenus, entre autres USAID, DDAI, et au niveau de PNUD, qui nous ont aidés au moins, qui nous ont appris comment élaborer les édits et que nous devons tenir compte de quoi avec certaines expériences. Donc sur le plan technique, ils nous ont formés, nous les remercions et nous vous rassurons qu'il y a amélioration dans toutes les assemblées. Au début, comme venait de dire le conseiller, merci pour cette précision, de les 163 degrés, les 163 édits qu'ils ont retenus, et que 30, ils ont trouvé inconstitutionnel, c'est bien. Mais les 30, là, vous verrez que c'était une confusion. C'était au début. Mais à un certain moment, et après avoir vécu certaines expériences, je crois que nous avons amélioré nos édits. Et vous verrez, la plupart des édits, ce sont des édits de ces trois dernières années ou quatre dernières années.
Mais
vers le début, vous verrez, c'est là où on a trouvé qu'il y avait certaines insuffisances qu'on a améliorées suite à la formation que les députés ont connue, ont suivi.
Merci honorable. Professeur Bouendoua, votre conclusion.
Ma conclusion serait d'abord tout le moins de dire que tous les projets dédiés, toutes les propositions dédiées se conçoivent en langue ethnotribale, en langue nationale. Deuxième proposition, il faudrait vraiment que l'administration réellement se rapproche de l'administré avec l'idée du compter sur soi qu'on appelle en titulaire Kujitegemea.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Ikiesi Yakala qui était à la technique. Merci à Alain Irung qui l'écoutait, Berry Franklin Luchaka sous la supervision de Pelé Kipela Mondo, à la présentation Guy Maté. Merci et bonjour des programmes sur Radio Capi.